sont vrais. 0826 300 300. On va évidemment revenir à 11h sur les propos d'Agnès Buzyn, également sur l'explication du président de la République. Pourquoi n'a-t-il pas prononcé ce mot de confinement? Et puis, nous sommes en ligne avec Maître Christophe Noël. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat en droit du travail au barreau de Paris et Annecy. Vous recevez énormément d'appels et on va essayer de répondre aux questions qui se posent aujourd'hui aux salariés. Et également avec nous pour répondre à vos questions de santé, toutes les questions que vous vous posez pour d'un point de vue médical, docteur Jérôme Marty. Bonjour, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Alors on va commencer peut-être avec vos appels. On a aussi des policiers qui nous appellent, des agents de la RATP qui racontent un petit peu leur quotidien. Donc, on a quelqu'un qui souhaite rester anonyme. On va l'appeler Jean, en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes agent RATP du métro parisien, c'est ça?
Exactement.
Et alors, racontez-nous comment ça se passe à la RATP.
Bah, on est plutôt dans un climat, je ne vais pas dire de peur, mais de non-réponse. En gros, on répond pas concrètement à nos réponses.
À vos questions, oui. C'est-à-dire que vous travaillez, vous ne travaillez... Comment ça se passe? Vous avez un droit de retrait? Vous vouliez poser une question, je crois, à l'avocat.
Oui, tout à fait. En fait, c'est par rapport à deux catégories. Il y a une catégorie d'agents qui ont des enfants et qui, du coup, sont théoriquement autorisés à rester à la maison. Et il y a une deuxième partie d'agents qui n'ont pas d'enfants et qui, eux, sont invités à continuer à travailler.
Donc, quelle était votre question?
Justement, on nous dit que des gels hydroalcooliques, des masques, des lingettes désinfectantes sont mises à disposition des agents. Mais comme dans tous les secteurs, il y a des pénuries. Question, c'est que... Si justement les moyens comme gel hydroalcoolique, les moyens de protection contre la maladie ne sont pas à disposition des agents, est-ce que les agents ont le droit de...
Un droit de retrait? Alors peut-être que c'est une question qui revient très souvent, maître. Qu'est-ce qu'on peut répondre?
Effectivement que c'est l'obligation principale des entreprises aujourd'hui, c'est effectivement de mettre en place des mesures de prévention pour éviter, effectivement, pour préserver la santé des salariés. Et j'entendais effectivement les gels, la présence de gels
hydroalcooliques.
Ouais, effectivement, ça me paraît fondamental. Pour ce qui est des masques, je pense pas. Enfin, j'ai pu lire que l'OMS n'a pas les recommandations de l'OMS sur le sujet, disent que c'est pas essentiel la présence de masques. Et puis, je pense qu'il faut plutôt les réserver au personnel soignant. Mais oui, effectivement, les lingettes, tout ce qui permet aux salariés de se nettoyer les mains, c'est à la condition sine qua non pour pouvoir travailler dans les entreprises où il y a des salariés qui bossent encore.
Oui. Quelle réponse à cette question du droit de retrait? Enfin, quelqu'un qui a peur, dont l'entreprise a estimé qu'il n'y avait pas de télétravail ou qui n'a pas pris de précautions, que prévoit la loi?
La loi dit qu'il ne faut pas, si vous voulez, il suffit que le salarié ait un sentiment légitime qu'il est en danger, que sa santé est en danger. C'est pas nécessairement, il faut pas forcément qu'il ait la preuve concrète qu'il y a un danger pour lui. Il faut qu'il ait le sentiment qu'il est en danger.
Ouais.
Et aujourd'hui, si effectivement les entreprises ne mettent pas en place des mesures de prévention adaptées, il peut avoir ce sentiment. Il pourrait effectivement exercer son droit de retrait. Donc c'est la question des salariés qui travaillent encore aujourd'hui en France. Elle est parfaitement légitime.
Donc, mais comment on fait concrètement? On envoie lettre à son patron. On fait quoi?
Il y a ce qu'on appelle le droit de retrait, c'est droit d'alerte et droit de retraite. Les deux sont concomitants le plus généralement. On doit évidemment informer son employeur qu'on exerce son droit de retrait, donc il faut écrire un courrier de préférence par courrier recommandé avec excuse de réception à son employeur en lui expliquant les raisons qui font qu'on part. Alors ça peut se faire, en général c'est concomitant, c'est-à-dire que j'écris à mon employeur, je lui dis ce qui ne va pas, je lui dis pourquoi je m'en vais, et je m'en vais.
Ouais.
Donc, c'est droit d'alerte et droit de retrait se combinent. Mais il faut évidemment, c'est la condition très importante, c'est d'informer son employeur.
C'est d'informer son employeur, donc d'envoyer une lettre recommandée d'informer son employeur. Mise en danger, beaucoup nous disent aussi, beaucoup de nos auditeurs nous disent, j'ai l'impression que mon employeur me met en danger, il n'y a rien de prévu. Alors, est-ce qu'on peut contraindre les employeurs à...
Oui, alors, il faut que ça repose encore une fois sur quelque chose de, d'objectif, de sensé. Il ne faut pas tomber dans une espèce de délire un petit peu paranoïaque. C'est pas parce que le virus est dans l'air en France aujourd'hui.
Il n'est pas dans l'air.
Voilà, c'est une façon de parler. Mais pour bien comprendre ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que le virus est dans l'air, entre guillemets.
Existe en France.
Il y a une menace, effectivement, qui pèse. Qu'on va pouvoir invoquer à tort et à travers ce fameux droit de retrait. Il faut quand même l'exercer dans des conditions qui soient sensées.
D'accord.
C'est
censé. Maintenant, la peur, vous le savez, elle est souvent aussi irrationnelle et qu'en ce moment, beaucoup de gens ont peur.
Oui, je sais bien, mais les épidémies...
Mais est-ce qu'un salarié peut un employeur peut refuser le droit de retrait?
Non, il ne peut pas. C'est pas lui.
D'accord.
C'est-à-dire que l'employeur pourra considérer que le droit de retrait est abusif, et dans ce cas-là, il ne paiera pas son salarié, ou alors il le sanctionnera, parce qu'il dira « j'ai mis en œuvre toutes les précautions possibles et immédiates dans mon entreprise ». La réaction de mon salarié est totalement disproportionnée, elle est insensée, etc. Et dans ce cas-là, il pourra effectivement... ne pas le payer pendant la période pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, et il appartiendra à ce moment-là au salarié de saisir le juge, en l'occurrence les conseils de prud'homme, pour obtenir la condamnation de son employeur, lui payer son salaire, s'il estime qu'il a exercé à bon escient son droit de retrait. Il y a un contentieux à venir devant les conseils de prud'homme
qui va être énorme. Docteur Marty, je vois une auditrice qui nous dit qu'elle voulait évoquer les personnes qui sont en cours de PMA, les femmes dont âge limite, à savoir 42 ans, poursuivre le traitement en toute sécurité. Elle est aujourd'hui désespérée parce que son labo dit qu'il ferme. L'agence de biométrie a publié un courrier qui dit que certains cas seront étudiés. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Malheureusement, j'ai envie de dire pas grand-chose. Il y a tout un tas de secteurs du soin qui vont fermer, parce qu'on évite les déplacements de population, on évite de rompre le confinement. Pour les radiothérapies, par exemple, et les chimiothérapies, on voit clairement qu'on est en train également de peser véritablement le bénéfice-risque au déplacement de ces patients qui sont également à risque d'infection, plus à risque que d'autres, et de regarder qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Est-ce qu'il faut espacer les chimiothérapies, espacer les radiothérapies, ou est-ce qu'il faut continuer de façon identique en prenant le risque qu'ils se contaminent lors des transports ou autre, quoi. Donc toutes ces choses-là font qu'on adapte les soins, et notamment tous les soins programmés, et bien évidemment, un certain nombre de patients peuvent se sentir lésés, peuvent se sentir en perte de chance, mais on est en train de regarder tout ça, on est obligé de reconfigurer complètement notre façon de soigner pendant toute la période de l'infection.
Oui, juste une question, parce j'ai repris volontairement Maître Noël quand il dit le virus est dans l'air. Le virus n'est pas dans l'air, il se transmet par les gouttelettes, on va le rappeler, par les éternuements, la toux. Donc est-ce qu'il y a vraiment un gros risque pour des gens qui, justement, ce que vous évoquez sur la chimiothérapie, vont par exemple peut-être partir dans leur propre voiture, arriver, il est où le risque de contamination?
Non, le risque, il est dans les lieux hospitaliers, on sait que malheureusement cette maladie est hautement nosocomiale, c'est-à-dire qu'elle se transmet malheureusement par le personnel soignant qui est en contact avec énormément de patients. C'est pour ça qu'on demande d'avoir tous les moyens de protection possibles, parce que les exemples internationaux nous montrent que dès l'instant où vous êtes dans un établissement de soins, il y a beaucoup de risques à ce que la chaîne de transmission soit faite par les soignants.
Comment vous expliquez qu'il n'y ait toujours pas de masque? Enfin, ça, c'est invraisemblable. On est la cinquième puissance mondiale et on n'a pas de masque.
Il y a peu de tests aussi. Il faudra qu'on étudie tout ça une fois la crise passée. Mais il est évident que ça pose la question de tout notre modèle de gouvernance sanitaire, où on a, vous le savez, une administration très forte, un lien avec Bercy et le côté économique qui est très fort également. Et là, on est en train, sans doute, de payer les conséquences de cette administration-là et de cette gouvernance-là, qui n'écoute pas les soignants, qui n'écoute pas les patients et qui ne regarde la santé que sur un plan économique. Et on n'a pas pu prévoir cette pandémie, on n'a pas pu prévoir, en tout cas, avoir les moyens d'y faire face parce qu'on a coupé sur des postes budgétaires et on en voit aujourd'hui toute la concrétisation.
Ouais. Moi, je viens de voir là à l'instant. J'invite Bruno Le Maire ce matin qui dit j'invite les salariés dont les entreprises sont ouvertes à se rendre sur leur lieu de travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est insensé.
Ça va à l'inverse du confinement. Alors après, je passe la parole à votre juriste. Mais après, si ce sont des entreprises indispensables au maintien, si vous voulez, de la vie du pays pendant le confinement. Il est évident qu'il y a des métiers qui sont indispensables et qui doivent continuer. Pour le reste, il faut que les gens restent chez eux. Mais là, on voit bien que ce gouvernement a un discours qui est
à la fois blanc et noir.
C'est dû en même temps. Le problème, c'est que quand on est à une période où on soigne des gens, le en même temps, il n'a plus lieu. C'est-à-dire, ne reste que le courage politique.
Oui, parce qu'on a vu qu'il y a des pays, j'ai lu plusieurs articles, en particulier dans le Financial Times, qui donnent l'exemple de Hong Kong, de Taïwan, qui ont pris les choses extrêmement au sérieux dès le départ et qui ont eu très peu de cas. Donc, la pandémie pouvait être contenue si les bonnes mesures avaient été prises. Alors, c'est toujours facile de refaire l'histoire après, sauf qu'on a l'exemple de deux pays qui ont réussi.
Mais le problème, c'est que le lockdown, c'est-à-dire ce confinement global, total, ne relève pas de l'hésitation. À partir du moment où on commence, on le fait entièrement. Ce qu'ils ont fait à Taïwan, ce qu'ils ont fait en Chine, c'est des lockdowns total. Alors, il est évident que c'est plus facile à faire quand ce sont des pays qui ne sont pas des démocraties. Dans des démocraties, ça demande une vraie explication et un vrai courage politique, mais il ne faut pas perdre le temps. Là, on a en gros 10-15 jours de retard sur cette affection depuis le début. On a loupé la phase 1 parce que là où il fallait tester tous les gens qui rentraient de pays étrangers et mesurer leur température, puis les tester, éventuellement les confiner tout de suite s'ils étaient positifs. Ça n'a pas été fait. On a mis des affiches. Ensuite, on a perdu du temps, on a commencé à mesurer à l'entrée les températures, mais on a perdu du temps. Et sur les phases 2, on a fait des clusters, des foyers. Chaque fois qu'il y avait des foyers de patients, on n'a pas fait des confinements totaux, on n'a pas fait de lockdown. Et donc les gens sont rentrés, sont sortis des clusters et on a disséminé l'affection. Donc on a perdu du temps. Ensuite, on a avancé pas à pas, on l'a vu, on a eu trois grandes déclarations en l'espace de quelques jours. On aurait pu faire tout dès la première, pour une fois. Donc, mais après, on ne va pas refaire le match.
Non, maintenant, on ne va pas refaire le match.
On est dans le swim maintenant, on discutera après de tout ce qui a dysfonctionné plus tard.
Alors la citation complète quand même, pour être très précise, de Bruno Le Maire, c'est: j'invite tous les salariés dont les entreprises sont encore ouvertes, dont les activités sont indispensables au fonctionnement, bon là c'est beaucoup plus clair, au bon fonctionnement du pays, à se rendre sur leur lieu de travail, c'est-à-dire effectivement l'agroalimentaire, des choses comme ça. Mais les activités de bureau, c'est incompréhensible que certains bureaux restent ouverts aujourd'hui.
Oui, mais c'est le cas, et si je peux me permettre, c'est quand même quelque chose, c'est assez confus, parce que il y a la déclaration du ministre de l'économie que vous venez de citer, mais il y a quand même les recommandations du ministère du Travail. Aujourd'hui, le curseur, pour savoir si on doit aller bosser ou pas, aujourd'hui, juridiquement, c'est le ministre du Travail qui vous l'a dit, c'est: est-ce que je peux faire du télétravail ou pas? Si je peux pas faire de télétravail, je vais travailler.
Oui, c'est ça, le discours. Oui, enfin, et sauf que, par exemple, tous ceux qui font dans le bâtiment, ils peuvent pas faire de télétravail.
Exactement.
Et pour le coup, il faudrait pas qu'ils aillent travailler non plus.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils n'ont pas dit dès le départ que le curseur, c'était: il y a des activités qui sont essentielles à la nation. Voilà lesquelles, et on va travailler l'agroalimentaire, les transports, des choses comme ça qu'on peut comprendre. Je parle évidemment pas des soins à la personne. Ça, évidemment, ça va de soi. Mais c'est pas le critère qu'ils ont retenu. Le critère qui a été retenu par le gouvernement, c'est cette fameuse idée que soit on peut télétravailler, soit on peut pas. Et si je peux pas télétravailler, je m'expose et j'expose les autres en allant bosser. C'est quand même invraisemblable, parce que je vais prendre trois exemples très bêtes. Un réceptionniste dans un hôtel, un ouvrier qui fait partie d'une chaîne de production dans une activité qui n'a rien d'essentiel à la nation, eh ben, ces gens-là, ou un commercial, ils sont obligés d'aller bosser. Ouais. Ils s'exposent à un risque, et ils exposent les autres, parce qu'on peut être porteur sain, et donc en allant travailler, je peux prendre des transports en commun, etc., etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 40 ou 50% des salariés en France qui continuent à aller travailler et qui s'exposent, à mon sens, totalement inutilement, et qui exposent les autres, d'ailleurs. Là, j'avoue que je ne comprends pas ce critère qui a été pris par le gouvernement.
Ouais. Alors, on a en ligne avec nous Olivier, qui est policier, qui voulait nous raconter son quotidien. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes policier en région parisienne, me dit-on. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes protégé? Moi, j'ai été contrôlé ce matin en venant travailler. Le policier n'avait ni gants, ni masque, ni gel, visiblement. Comment ça se passe pour vous?
Alors, on a été doté de un masque par personne et un gel hydroalcoolique, un petit flacon par véhicule, avec interdiction de s'en servir. Sauf hors de l'état-major, donc de notre haute hiérarchie. Ça a été décidé comme ça, parce que ils considèrent qu'on n'a pas assez de masques et que faut les garder au maximum. Donc on est confronté à la population tout le long de la journée, sans avoir de protection et sans avoir le droit de se servir des protections, même de nos protections achetées avec nos deniers personnels. On a des collègues qui ont dû s'expliquer pourquoi ils avaient mis les protections.
Oui, parce qu'on en a vu effectivement certains qui avaient des masques.
C'est ça. Et ben certains collègues ont dû s'expliquer au niveau de la hiérarchie, en sachant que ils ont été confrontés à des personnes qui avaient les symptômes du coronavirus. À ça, vous rajoutez que quand nos familles sont touchées plus ou moins par le coronavirus, on a interdiction d'être en arrêt maladie. À partir du moment où où on n'a pas été, où ça n'a pas été décelé chez nous. Donc on a des collègues qui viennent travailler. Ouais. Qui ont été en contact avec leur femme ou même leur belle-mère, qui ont été contaminés, qui sont encore d'ailleurs confinés. Ils ont été en contact avec ceux qu'ils habitent avec, et c'est interdiction d'être en arrêt. En fait, c'est pas d'arrêt maladie dans ce cas-là.
Et vous avez ordre également d'être à pied et pas en voiture. Donc il y a des quartiers où ça risque d'être compliqué.
C'est ça. Donc en fait, ça a été divisé. Ils ont divisé les quartiers en fonction des gens. Et donc on a une personne qui reste au véhicule pour conduire le véhicule et tout le monde à pied. Donc quand on sait que certains quartiers qui sont un peu tendus où la police n'est pas forcément appréciée, c'est compliqué d'être à pied. Gérer tout le secteur, c'est compliqué parce qu'on manque en plus de ça d'effectifs. Donc sur Paris, c'est gérable. Sur Paris, il n'y a aucun souci parce que sur Paris, c'est plein d'effectifs. Mais dès qu'on commence à s'éloigner un peu, en petite couronne ou même sur la grande couronne, c'est impossible de gérer ça correctement.
Eh ben, merci de votre témoignage. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé. Un mot, maître, est-ce qu'un policier a un droit de retrait?
Oui, il a un droit de retrait. Mais en l'occurrence, ce que je trouve absolument hallucinant, c'est ce qui vient de entendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui, il peut potentiellement contaminer les gens. Et on n'en tient absolument pas compte. La hiérarchie n'en tient absolument pas compte.
On a avec nous Stanislas Godon également, secrétaire national Alliance Police Nationale. Vous avez entendu ce policier. J'imagine que vous confirmez tout ce qu'il vient de dire.
Oui, bien sûr. Bonjour. Nous le confirmons parce que nous avons des centaines de témoignages, évidemment, sur l'ensemble du territoire national, parce que notre organisation syndicale est mobilisée depuis le premier jour où nous savions que l'affaire des masques, entre guillemets, allait venir, de manière très très forte, frapper de plein fouet l'activité, parce que si on est en guerre, là, l'administration, le président de la République a oublié ses soldats, parce que depuis le début mars, nous n'avons eu de cesse de répéter qu'il fallait absolument donner des masques à nos collègues, qui vont être en première ligne, je le rappelle, on nous a dit 100 000 policiers et gendarmes qui vont être en première ligne pour contrôler notamment la validité des attestations, notamment sur l'honneur, mais également toutes les autres missions. Enfin, nous venons juste d'obtenir, je viens d'avoir l'information que certains centres de rétention administrative ferment, parce que c'était aussi des foyers notamment qui exposaient les collègues, parce que le collègue, une fois qu'il sera atteint du coronavirus et qu'il risque d'être un contaminant potentiel pour les autres, eh bien, ce collègue-là ne pourra pas aller travailler. Et si on se retrouve avec des milliers de policiers qui ne peuvent plus aller travailler, parce que j'entendais vos interlocuteurs, notamment précédemment, qui disaient que les missions nécessaires à la nation, s'il y en a bien une qui est nécessaire, c'est un peu celle de la police. Et j'entendais également des médecins qui disaient qu'on ne peut pas dissocier le personnel hospitalier et les aides-soignants des effectifs de la sécurité, parce que ce serait un non-sens. Nous sommes également des acteurs pour mettre en place les dispositions qui ont été décidées par le gouvernement. Nous avons d'ailleurs posé un ultimatum. Si d'ici une journée ou deux, il n'y a pas le matériel, notamment dans tous les services, alors les policiers vont se mettre effectivement en retrait, parce qu'il n'est hors de question de les exposer inutilement à ce virus-là.
Ouais, il y a 100 000 masques, on ne va pas faire de polémique, mais qui vont être distribués à des prisonniers. Ça vous paraît, j'imagine que ça vous choque.
Ça a choqué évidemment mes collègues, tout comme ça nous choque également de savoir que si la police nationale ne peut pas donner des masques, aux collègues sur le terrain, nous venons d'apprendre que dans la plupart des polices municipales des collectivités locales, les collègues, notamment de l'APM, sont équipés de masques. Donc je ne comprends pas la gestion de ces masques, et j'espère que à la fin de l'épidémie, on tirera toutes les conséquences et qu'on mettra en lumière les responsabilités. Il est impensable quand même qu'il n'y ait pas eu un pouvoir d'anticipation, et nous avons d'ailleurs sorti un peu une communication, de ce gros mot que je vais prononcer, où nous avons dit où sont passés ces putains de masques, parce que c'est exactement ce que disent les policiers à l'heure d'aujourd'hui.
C'est ce que j'ai dit ce matin aussi.
Je peux amener quelques précisions.
Docteur Marty.
Ce qu'on sait, ça fait plus d'un mois que j'alerte sur ces histoires de masques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un stock de masques FFP2 qui était constitué par la réserve sanitaire, anciennement Eprus, que ce stock a été arrêté par le gouvernement, par Xavier Bertrand à l'époque, en 2011, parce qu'on sortait de la crise H1N1 et qu'il y avait eu énormément de matériel, au contraire, à ce moment-là, et que ce matériel n'avait pas été, en quelque sorte, utilisé tellement il y en avait. Ça avait coûté, et donc le gouvernement suivant ayant dit, comme ça coûte, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on fait plus de stock, le stock des pharmacies suffira. Le seul problème, c'est que les personnels de soins ne le savaient pas, ça. Le gouvernement suivant, Marisol Touraine, n'a pas reconstitué les stocks, et le gouvernement suivant, Agnès Buzyn, n'a pas commandé les masques. Et quand Olivier Véran est arrivé, il a commandé quand la demande était internationale. Mmh. Donc on s'est retrouvé avec un flux qui était un flux d'une demande internationale, et donc du temps pour obtenir ces masques.
Ils sont fabriqués aujourd'hui. Tous où, en Chine, les masques? Il n'y a pas d'usine française?
Non, il y a trois producteurs français, mais même à plein pot, ils ne peuvent pas fournir. Songez que bien vous sûr. Avez près de 1 million de personnels soignants. Si vous les masques, c'est plusieurs masques par jour. Ouais. Ça veut dire qu'en production, ne serait-ce que pour les soignants, il faudrait avoir plusieurs millions par jour. Ouais. À l'époque de Roselyne Bachelot sous H1N1, il y a eu 1 milliard de masques commandés. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, il en faut pour les forces de l'ordre, effectivement, qui sont en première ligne dans bien ce sûr. Combat que l'on a, et qui vont veiller à ce que la population ne rompe pas le confinement, et cette rupture de confinement serait la cause du débordement de nos services de réanimation, par exemple. Nous, on va être en première ligne, on a besoin d'être protégés parce qu'on ne peut pas sortir du service que l'on rend aux patients au moment où on va avoir le plus besoin de nous, et puis on ne peut pas imaginer un seul instant qu'un soignant contamine des patients. On est là pour soigner, on n'est pas là pour contaminer. Donc évidemment, mais maintenant on est face à cette situation. Donc on a alerté, on a saisi le MEDEF par le biais de son président pour qu'il mette en branle les usines textiles françaises et qu'il fabrique des masques. On sait qu'il y a également des actions locales avec par le biais de l'Association des maires ruraux de France pour voir si on ne peut pas, à l'aide d'un patron et de matériel et des matériaux de base, constituer en local des productions. Tout ça est en train de se mettre en place. Pour autant, là, le virus est là, le virus circule, il y a des régions où nos capacités de réanimation sont déjà dépassées.
En Alsace, on l'a vu.
Où nos généralistes font face, mais à un afflux de patients qui est très important. Cette vague-là, elle nous arrive dessus, elle va être présente dans les jours qui viennent, probablement dans l'ensemble des régions de France, donc il va falloir qu'on fasse comme le sous-officier de la coloniale, il va falloir qu'on se démerde. Ouais. Mais on ne peut pas imaginer un seul instant, je suis désolé de dire ça, hein, autant pour les forces de l'ordre que pour nous, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'on fasse jouer notre droit de retrait. Ouais. Parce que là, on a un mur qui nous arrive en pleine face, et il va falloir qu'on y soit. Et on va se démerder, c'est tout. Ouais. On espère que les productions vont être là. Moi, je vous dis, j'alerte chaque heure depuis un mois là-dessus. Mais on peut pas, comme j'ai pas de planche à fabriquer des masques, malheureusement, on ne les a pas pour l'instant. Donc il va falloir qu'on fasse comme ça et on réglera les choses après le conflit.
Oui, un mot, maître Noël. Oui. On vous écoute.
Oui, si vous me permettez juste une petite remarque. Dans les services et dans les unités, notamment de la police nationale, où quelques masques sont arrivés, il faut absolument que ces instructions soient supprimées, ces instructions de ne pas porter les masques parce que ce serait anxiogène ou que ça coûterait de l'argent, notamment à l'État. Dans les quelques services qui en ont, il faut que eux puissent être dotés et les utiliser sur la voie publique, notamment.
Mais moi, j'ai eu la trouille ce matin en me faisant contrôler parce que le policier, il s'approche de vous, vous ouvrez la fenêtre, il est à moins d'un mètre, forcément, quand vous lui donnez votre papier, et franchement, s'il est contaminé, il vous parle, c'est effectivement, ce mot anxiogène est dingue, franchement, le président de la République qui n'a pas prononcé, on va y revenir dans un instant, ce mot de confinement, parce qu'il ne voulait pas angoisser les Français, on a un peu de mal à comprendre. Merci en tout cas à tous, merci Stanislas Godon, merci docteur Marty, et merci maître Noël, je pense qu'on aura l'occasion de vous faire réintervenir, merci à vous, on se retrouve dans un instant, on va parler d'Agnès Buzyn et de ses déclarations fracassantes hier dans le journal Le Monde. C'est une mascarade, ces élections. À tout de suite.